Explication supplémentaire. Rançon. Le prix payé pour le rachat d'une personne captive, d'un bien hypothéqué ou d'une dette, le fait de résoudre un problème avec de l'argent. Utilisé le plus souvent comme représentation positive de la rédemption. Exemple, Exode, chapitre 21, verset 30, somme d'argent, Nombre, chapitre 35, verset 31 à 32, Ésaïe, chapitre 43, verset 3, rançon. Dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 20, verset 28, et Marc, chapitre 10, verset 45, décrivent la rançon comme le « paiement d'argent ». Expier, expiation. Le rituel de transfert de tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'expiation était le transfert du péché à un sacrifice par l'imposition des mains sur sa tête. Dans le Nouveau Testament, cela signifie le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. En hébreu et en grec, ce mot signifie le transfert du péché sur Jésus-Christ afin que les pécheurs puissent entrer dans la bonne relation avec Dieu. Le Nouveau Testament illustre bien l'offrande pour l'expiation, le baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Dans l'Ancien Testament, le mot « expiation » est utilisé près de 100 fois dans l'Ancien Testament et il est toujours exprimé comme, exemple, Lévitique, chapitre 23, verset 27, chapitre 25, verset 9, Nombre, chapitre 5, verset 8, Kapar en hébreu, généralement écrit comme « faire l'expiation ». L'expiation est la traduction d'un mot hébreu signifiant le transfert des péchés par l'imposition des mains sur la tête d'un bouc vivant et la confession sur lui de toutes les iniquités des enfants d'Israël. Lévitique, chapitre 16, verset 20. Dans le Nouveau Testament, l'expiation est liée à l'araméen « kapar » qui signifie « couvrir ». Cela signifie le baptême de rédemption de Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus est venu dans ce monde et a été baptisé à l'âge de 30 ans pour accomplir le salut de toute l'humanité. L'expiation biblique. Premièrement, dans l'Ancien Testament, l'expiation était généralement donnée par le sacrifice d'un animal. Exemple, Exode, chapitre 30, verset 10, Lévitique, chapitre 1, verset 3 à 5, chapitre 4, verset 20 à 21. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, le concept du sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament a été maintenu, mais la rédemption de l'humanité est liée à Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Le mot expiation n'a pas été utilisé pour désigner la mort du Christ uniquement pour expier le péché originel, mais pour enlever tous les péchés des gens. Et après le baptême par lequel les péchés du monde ont été transférés sur Jésus, Matthieu, chapitre 3, verset 15, il a sauvé l'humanité en versant son sang sur la croix. Lévitique, chapitre 1, verset 1 à 5, Jean, chapitre 19, verset 30. L'apôtre Paul explique dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, que « un seul est mort pour tous », puis au verset 21, « pour nous », dans Galates, chapitre 3, verset 13, étant devenu malédiction pour nous. Parmi les nombreux versets du Nouveau Testament qui font référence à Jésus comme le sacrifice, exemple Éphésiens, chapitre 5, verset 2, on trouve Jean, chapitre 1, verset 29, 36, Agneau et Jean-Baptiste, et première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, notre Pâque à l'apôtre Paul. Paul a précisé que le baptême de Jésus dans le Jourdain était l'expiation pour tous les péchés du monde. Il explique dans Romains, chapitre 6, que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Il poursuit en expliquant que la crucifixion de Jésus était le jugement et la compensation pour le péché, que le sacrifice d'expiation a été offert pour les âmes de tous les peuples. La mort de Jésus signifie pour nous le sacrifice d'expiation dans l'Ancien Testament. L'imposition des mains dans l'Ancien Testament et le baptême de Jésus dans le Nouveau Testament sont conformes à la loi de Dieu. Ésaïe, chapitre 53, verset 10, Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17, Hébreu, chapitre 7, verset 1 à 10, 18, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Le Nouveau Testament ne se termine pas avec le baptême et la mort de Jésus, mais continue en nous disant que l'accomplissement du salut est notre baptême en Christ et notre mort avec lui. Romains, chapitre 6, versets 3 à 7, Galates, chapitre 2, versets 19 à 20. Il nous dit que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste pour enlever tous les péchés du monde et qu'il a été crucifié en conséquence. Jésus-Christ, par son baptême et son sang, a non seulement lavé les péchés du monde et enduré la douleur qui en a résulté, mais il nous a également sauvés du pouvoir de Satan et l'a ramené au pouvoir de Dieu en acceptant la punition à la place de l'humanité. Par conséquent, la rédemption de Jésus a résolu le problème du péché qui empêchait les gens de se rapprocher de Dieu. Cet événement capital a rétabli la paix et l'harmonie entre les hommes et Dieu, apportant en même temps le salut, la joie, Romains, chapitre 5, verset 11, la vie, Romains, chapitre 5, versets 17 à 18, et la rédemption. Matthieu, chapitre 3, verset 15, Jean, chapitre 1, verset 29, Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 20, Éphésiens, chapitre 1, verset 7, Colossiens, chapitre 1, verset 14. Le jour des expiations. En hébreu, ce concept signifie le jour de la « couverture » ou de la « réconciliation ». Le jour le plus important pour les Juifs était le jour des expiations, le dixième jour du septième mois. Lévitique, chapitre 23, verset 27, chapitre 25, verset 9. Nous pouvons voir dans Lévitique, chapitre 16, que même le grand prêtre ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint, sauf pour des rituels spécifiques. Le lieu très saint lui-même avait besoin d'expiation tout comme le peuple d'Israël. Ainsi, le grand prêtre devait offrir le sacrifice afin de transmettre les péchés en posant ses mains sur la tête du sacrifice. Les enfants d'Israël pensaient à la sainteté de Dieu et à leurs péchés le jour des expiations. À cette époque, pas moins de 15 offrandes, y compris le bouc émissaire, 12 holocaustes et 3 offrandes d'expiation étaient placées devant Dieu. Lévitique, chapitre 16, versets 5 à 29, Nombre, chapitre 29, versets 7 à 11. Si l'on compte l'autre agneau, mentionné dans Nombre, chapitre 28, verset 8, on obtient 13 holocaustes et 4 offrandes d'expiation. Le jour où les Israélites ont expié les péchés de l'année était le dixième jour du septième mois. De la même manière, le jour de l'expiation pour le monde entier était le jour où Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. C'était le jour de l'expiation pour toute l'humanité. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. C'était le jour où Dieu a lavé tous les péchés du monde. Matthieu, chapitre 3, verset 15. C'était le jour de l'expiation où Dieu accomplissait ainsi tout ce qui est juste. Le sacrifice d'expiation. Dans l'Ancien Testament, tout comme les autres sacrifices, le sacrifice d'expiation était offert dans le tabernacle. Le grand prêtre se purifiait et revêtait les vêtements de lin sacré au lieu de la tenue de cérémonie habituelle pour les rituels, et choisissait un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier comme holocauste pour lui-même et sa maison. Lévitique, chapitre 16, versets 3 à 4. Le grand prêtre imposait ses mains sur la tête des offrandes pour transmettre le péché. L'imposition des mains était une partie essentielle du jour des expiations. S'il n'en avait pas été ainsi, sans l'imposition des mains, l'expiation du péché n'aurait pas pu être accomplie, et par conséquent, les sacrifices n'auraient pas pu être offerts, ni les péchés annuels d'Israël transmis. Dans Lévitique, chapitre 16, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Il prit du peuple deux boucs en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Lévitique, chapitre 16, verset 5. Puis il présenta deux boucs devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle et tira au sort pour choisir celui qui serait pour l'Éternel et celui qui serait le bouc émissaire. Celui pour le Seigneur était offert comme sacrifice pour le péché, et le bouc émissaire était présenté vivant devant le Seigneur pour expier les péchés annuels du peuple d'Israël, puis envoyé dans le désert. Lévitique, chapitre 16, versets 7 à 10. Les péchés des Israélites devaient être transférés au bouc émissaire par l'imposition des mains. Ensuite, le bouc émissaire, qui prenait sur lui tous les péchés d'Israël, était jeté dans le désert pour la paix entre le peuple et Dieu. Ainsi, les péchés annuels d'Israël étaient effacés. Dans le Nouveau Testament, de la même manière, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, et a enlevé tous les péchés du monde en tant qu'agneau sacrificiel pour accomplir le salut de Dieu. Lévitique, chapitre 20, verset 22, Matthieu, chapitre 3, verset 15, Jean, chapitre 1, verset 29, 36. Dans l'Ancien Testament, avant de tirer au sort, Aaron tuait le jeune taureau en sacrifice d'expiation pour lui et sa maison. Lévitique, chapitre 16, verset 11. Puis il prenait sur l'autel devant l'Éternel un encensoir rempli de charbons ardents, ses mains pleines de parfums odorants finement broyés, et il le portait au-delà du voile. Puis il mettait l'encens sur le feu devant l'Éternel, de sorte que la nuée d'encens flottait au-dessus du propitiatoire. Il prenait aussi du sang du taureau et en faisait l'aspersion avec son doigt sur et devant le propitiatoire cette fois. Lévitique, chapitre 16, versets 12 à 19. Le jour des expiations, Aaron ne pouvait omettre d'imposer ses mains sur la tête de l'offrande. Aaron posait les mains sur le bouc et transférait sur sa tête tous les péchés et toutes les iniquités des Israélites. Ensuite, un homme approprié emmenait le bouc dans le désert et le relâchait. Le bouc émissaire a erré dans le désert avec les péchés d'Israël et est mort pour eux à la fin. C'était le sacrifice d'expiation dans l'Ancien Testament. C'est la même chose dans le Nouveau Testament, sauf que c'était Jésus-Christ qui, en tant que bouc émissaire, a pris sur lui tous les péchés du monde par son baptême et a saigné et est mort sur la croix pour nous. Par conséquent, le salut de tous les péchés ne peut être apporté sans le baptême et la crucifixion du souverain sacrificateur céleste, Jésus-Christ. C'est l'accomplissement du salut de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. L'imposition des mains. C'est le processus de transfert du péché sur le sacrifice d'expiation dans l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 4, verset 29, chapitre 16, verset 21. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu permettait aux gens d'expier leurs péchés en posant les mains sur la tête de leur sacrifice d'expiation à l'intérieur du tabernacle. Et cela révèle le baptême de Jésus à venir dans le Nouveau Testament. Baptême. Le baptême signifie, premièrement, être lavé, deuxièmement, être enterré, être immergé, et, dans un sens spirituel, troisièmement, transmettre les péchés par l'imposition des mains, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste avait pour but de laver tous les péchés du monde. Le baptême de Jésus signifie enlever les péchés de l'homme, laver les péchés du monde. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de tous les êtres humains et le grand prêtre dans la tradition d'Aaron, et a pris sur lui tous les péchés du monde. C'était le but de son baptême. La signification spirituelle du mot « baptême » est « transmettre, être enterré ». Ainsi, le baptême de Jésus signifie que tous les péchés ont été transférés sur Jésus et qu'il a été jugé à notre place. Afin de sauver l'humanité, Jésus a dû enlever nos péchés et mourir pour eux. Ainsi, sa mort est aussi la mort de vous et de moi, de tous les pécheurs du monde, et sa résurrection la résurrection de tous les hommes. Son sacrifice est le salut des pécheurs, et son baptême est le témoignage de la purification de tous les péchés de l'humanité. La Bible nous dit, il y a aussi un antitype qui nous sauve maintenant, le baptême. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Le baptême de Jésus est le juste moyen de sauver l'humanité en la débarrassant de tous ses péchés. Le péché. Tout ce qui s'oppose à Dieu est péché. Cela fait référence à tous les péchés, y compris le péché originel et les transgressions que nous commettons tout au long de notre vie. En grec, le péché est « hamartia » et « péché » est « hamartano » qui signifie « rater la cible ». Par conséquent, l'un des péchés les plus graves est de croire incorrectement en Jésus et donc de ne pas avoir la capacité d'être sauvé. Ne pas connaître ni croire en la vérité, c'est commettre le péché de désobéissance et avoir du mépris pour Dieu. Si nous ne voulons vraiment pas pécher devant Dieu, nous devons comprendre correctement les paroles de Dieu et réaliser la vérité selon laquelle Jésus est devenu notre Sauveur. Nous devons croire au baptême de Jésus et à sa croix par les paroles de Dieu. C'est un péché de ne pas accepter la parole de Dieu et de s'écarter de la vérité et de croire en de fausses théories. La Bible nous dit que le péché le plus grave est de ne pas croire que Dieu a effacé tous les péchés du monde. Nous devons croire à la naissance de Jésus, au fait qu'il nous a lavés du péché par son baptême et qu'il nous a donné la vie par son sang sur la croix. C'est un péché de ne pas croire aux paroles écrites selon lesquelles Jésus a été baptisé, est mort sur la croix et est ressuscité pour nous libérer de nos péchés. Repentance. Lorsque quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu réalise ses péchés, remercie Jésus de les avoir lavés et revient à Dieu, cela s'appelle la repentance. Nous sommes tous des amas de péchés. La vraie repentance consiste à admettre la vérité suivante. Nous devons admettre que nous sommes pécheurs devant Dieu et que nous ne pouvons que pécher toute notre vie et aller en enfer à notre mort. Nous devons également admettre que nous devons recevoir Jésus en croyant qu'il est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs comme nous et qu'il a enlevé tous les péchés, par son baptême, et qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver. La vraie repentance consiste à abandonner nos propres pensées et à revenir à Dieu. Actes, chapitre 2, verset 38. La repentance consiste à admettre nos péchés et à revenir à la parole de Dieu, à accepter le salut de l'eau et du sang de tout notre cœur. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 6. La véritable repentance consiste à reconnaître que nous sommes de véritables pécheurs et à croire en Jésus, le Fils de Dieu, comme notre Sauveur qui nous a sauvés de tous nos péchés. Pour être sauvés et lavés de tous nos péchés, nous devons cesser d'essayer d'être purs par nos propres œuvres et admettre que nous sommes de véritables pécheurs devant Dieu et ses lois. Nous devons ensuite accepter la vérité de son salut, l'évangile de l'eau et de l'esprit, le salut que Jésus nous a donné par son baptême et son sang. Un pécheur doit abandonner toutes ses propres pensées et sa propre volonté et revenir complètement à Jésus. Nous serons sauvés lorsque nous croirons que le baptême de Jésus devait prendre tous nos péchés sur lui. En d'autres termes, il faut croire que le baptême de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection ont permis de sauver les pécheurs. Jésus est venu dans la chair et a été baptisé et crucifié pour laver tous nos péchés. Avoir une foi totale en tout cela et croire que Jésus a été ressuscité pour devenir le sauveur de tous ceux qui croient en lui, c'est le vrai repentir et la foi authentique. Le salut. Le salut signifie être sauvé de la noyade. Nous recevons le salut lorsque nous admettons que nous ne pouvons pas ne pas aller en enfer pour nos péchés et que nous croyons que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés par sa naissance, son baptême et son sang sur la croix. Ceux qui sont purifiés de leurs péchés en croyant au salut de Jésus, c'est-à-dire au baptême et au sang de Jésus, sont appelés les sauvés, les nés de nouveau, les justes. Nous pouvons utiliser le mot « salut » pour ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés, y compris le péché originel et leurs péchés quotidiens, en croyant en Jésus. Tout comme un homme qui se noie est sauvé, l'homme qui se noie dans le péché du monde peut être sauvé en croyant en Jésus comme son sauveur, en croyant en son baptême et en son sang, en croyant aux paroles de la vérité spirituelle. Né de nouveau. Cela signifie naître une seconde fois. Un pécheur naît de nouveau lorsqu'il est sauvé spirituellement en croyant au baptême de Jésus et à sa croix. Nous naissons de nouveau spirituellement en croyant au baptême et au sang de Jésus. Les nés de nouveau sont ceux qui ont été lavés de tous leurs péchés et sont sans péché, attendant la venue de Jésus. Expiation des péchés. Ce concept important est également connu sous le nom de suppression du péché. Lorsque nous sommes purifiés d'un seul coup de tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, les péchés sont lavés. La foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit consiste à croire en l'existence de Jésus en tant que Fils de Dieu, en sa venue dans ce monde dans la chair humaine, en son baptême et sa crucifixion pour le salut de nous tous. La rédemption que Jésus a donnée à l'homme s'effectue par la foi en son baptême et son sang, comme cela est rapporté dans le Nouveau Testament, selon laquelle Jésus lui-même sauverait tous les hommes du péché. La rédemption dans la Bible indique que les péchés ont été effacés par la foi dans le baptême de Jésus et dans son sang. Tous les péchés ont été transférés sur Jésus, il n'y a donc plus de péché dans le cœur de l'humanité. Nous ne pouvons nous déclarer sauvés et justes que lorsque nous remettons tous nos péchés à Jésus par le baptême de Jésus. Jésus-Christ. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Jésus fait référence au Sauveur, celui qui a sauvé tous les hommes de leurs péchés. Christ, loin. Il y avait trois rôles officiels pour lesquels les gens étaient oints par Dieu. Jésus les a tous remplis. Premièrement, celui de roi. Deuxièmement, celui de prophète. Troisièmement, celui de grand prêtre du ciel. Jésus-Christ était tout cela. Nous devons croire en Jésus en tant que roi, prophète et prêtre qui nous a apporté la rédemption et le salut. C'est pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ. Il était le grand prêtre céleste qui nous a sauvés de tous les péchés du monde par son baptême et son sang. Par conséquent, il est le roi de tous ceux qui croient en lui. Et il nous fait prendre conscience de nos péchés lorsque nous nous présentons devant lui. Il nous a enseigné que nous sommes pécheurs depuis l'époque de nos ancêtres, qu'en tant que descendants de pécheurs, nous sommes nés pécheurs et que, par conséquent, nous sommes sous le jugement de Dieu. Il nous a également enseigné que nous sommes lavés de nos péchés par son baptême et son sang. Il a accompli toutes ses œuvres pour nous, pécheurs. Pourquoi le Fils de Dieu est-il devenu homme? Il est devenu homme pour être le Sauveur et sauver tous les pécheurs du péché, du jugement et de l'enfer. Qui est Jésus? Comme indiqué dans Genèse, chapitre 1, il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est le Créateur, le vrai Dieu, le Dieu de tout l'univers qui a sauvé tous les pécheurs des péchés du monde. Philippiens, chapitre 2, verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, Jean, chapitre 1, versets 2 à 3, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus est le Dieu de la création, le maître de l'univers. Cependant, de nombreuses personnes n'ont pas été sauvées parce qu'elles ne croyaient pas à l'amour et au salut venant de Jésus lorsqu'il est descendu dans ce monde dans la chair. Mais ceux qui croient en toutes ces choses sont sauvés par la foi, deviennent le peuple de Dieu et obtiennent la vie éternelle en croyant en lui. Ils sont devenus les justes. Quelle est la loi ordonnée par Dieu? Dieu est le planificateur, le seul vrai Dieu et l'être absolu. Il a donc établi la loi dans le monde dans les buts suivants. Premièrement, il a donné aux pécheurs sa loi et ses commandements pour les sauver de leurs péchés. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains, chapitre 3, verset 20. Deuxièmement, la deuxième loi qu'il nous a donnée est la loi de la foi qui sauve les pécheurs. C'est la loi de l'esprit de vie, Romains, chapitre 8, verset 2, qui donne accès au salut par la foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Romains, chapitre 5, versets 1 à 2. Jésus est descendu dans ce monde pour accomplir la loi qu'il a ordonnée et a été baptisé, a versé son sang sur la croix et est ensuite ressuscité. Jésus a établi la loi du salut pour sauver tous les pécheurs du monde. Troisièmement, Dieu a ordonné la loi de la foi pour ceux qui croient au salut de l'eau et de l'esprit. Quiconque veut être sauvé et devenir fils de Dieu doit croire à la loi de la foi instituée par Dieu. C'est le seul chemin vers le salut. Quatrièmement, il a permis le ciel à ceux qui croient au salut spirituel de la vérité. La loi de Dieu, les 10 commandements. La loi de Dieu contient 613 articles de loi concernant la vie quotidienne. Mais l'essentiel de la loi est constitué des 10 commandements que nous devons observer devant Dieu. Il y a des ordres et des interdictions telles que « fais ceci » et « ne fais pas cela ». Ce sont les lignes directrices à suivre, et les commandements de Dieu nous ont été donnés pour que nous puissions prendre conscience de nos péchés. Grâce aux commandements écrits de Dieu, nous pouvons reconnaître à quel point nous désobéissons à Dieu. Romains, chapitre 3, versets 19 à 20. La raison pour laquelle Dieu nous a donné ces commandements est de nous faire prendre conscience de nos péchés. Nous ne pouvons jamais respecter tous ces commandements, nous devons donc accepter humblement le fait que nous sommes des pécheurs avant de croire en Jésus. Nous ne devons jamais commettre le péché d'arrogance en essayant de vivre selon ses commandements. Nous sommes tous pécheurs et Dieu sait que nous ne pourrons jamais vivre selon sa loi. Il est donc venu dans ce monde en tant qu'homme et a été baptisé et jugé sur la croix. La loi montre à quel point la loi de Dieu est parfaite, mais aussi à quel point nous, les êtres humains, sommes vraiment faibles. En même temps, la sainteté et la perfection de Dieu sont révélées dans la loi de Dieu. Devons-nous, obligatoirement, croire en Jésus? Oui, nous devons le faire. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes, chapitre 4, verset 12. Parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est le plus juste et parce que telle est sa volonté. Il n'y a pas d'autre sauveur, puisque seul Jésus est notre Sauveur. Nous ne pouvons être rachetés et naître de nouveau qu'en croyant en lui. Parce que nous ne pouvons aller au ciel et vivre éternellement qu'en croyant en lui, nous devons croire en lui. Pourquoi devons-nous croire en Jésus? Nous devons croire en Jésus, premièrement, pour accomplir la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour être sauvés de tous nos péchés. Troisièmement, pour être sauvés et entrer dans le royaume des cieux afin de vivre éternellement avec le Seigneur. Pouvons-nous, en croyant en Jésus, être encore pécheurs? Non. L'apôtre Paul a dit en se souvenant des jours avant sa rencontre avec Jésus dans 1 Épître à Timothée, chapitre 1, verset 15, « Des pécheurs, dont je suis le premier ». De nos jours, nombreux sont ceux qui pensent qu'ils sont pécheurs même lorsqu'ils croient en Jésus. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes tous pécheurs avant de croire en Jésus. Cependant, une fois que nous croyons en Jésus correctement selon sa parole, nous devenons immédiatement justes. L'apôtre Paul s'est souvenu de l'époque avant qu'il ne connaisse Jésus et a confessé qu'il était le premier de tous les pécheurs. Cependant, Paul, lorsqu'il s'appelait Saul, a rencontré Jésus sur la route de Damas et a réalisé que Jésus était son sauveur et il a cru et remercié Jésus. Puis, pendant le reste de sa vie, il a été témoin que la justice de Dieu, le baptême de Jésus, devait enlever les péchés du monde et qu'il devait mourir pour effacer les péchés du monde. En d'autres termes, il est devenu un serviteur de Dieu qui a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. Se méprenant sur cette confession selon laquelle il était le principal pécheur avant d'être sauvé, avant de rencontrer Jésus, beaucoup pensent que l'apôtre Paul était un pécheur même après avoir rencontré Jésus. La vérité, cependant, c'est qu'il n'était plus un pécheur, mais quelqu'un qui pouvait faire face à Jésus à tout moment. Il avait vécu en prêchant l'évangile du salut, la rédemption du baptême et du sang de Jésus. Même après qu'il se soit présenté devant Dieu, ses lettres nous sont restées dans la Bible, témoignant que l'évangile de l'eau et de l'esprit était l'évangile de l'Église primitive. Par conséquent, la confession de l'apôtre Paul dans 1 Épître à Timothée, chapitre 1, verset 15, était un souvenir de ses vieux jours et aussi une action de grâce au Seigneur. Était-il un pécheur après avoir cru en Jésus? Non. Avant de naître de nouveau, il était un pécheur. Au moment où il a cru en Jésus comme son Sauveur, au moment où il a réalisé que les péchés du monde avaient été transférés sur Jésus par son baptême, au moment où il a cru au baptême de Jésus et au sang de la croix, il est devenu juste. La raison pour laquelle il s'est présenté comme le principal pécheur était qu'il se souvenait du temps où il avait tourmenté les disciples de Jésus et remercié Dieu d'avoir sauvé un pécheur aussi désespéré que lui. Qui peut le déclarer pécheur? Qui peut déclarer qu'une personne devenue juste en croyant au baptême et au sang de Jésus pour le salut est un pécheur? Ce ne sont que des personnes qui ne connaissent pas la vérité de la rédemption de Jésus. L'apôtre Paul est devenu juste en croyant au salut par Jésus, et à partir de ce moment-là, en tant que serviteur de Dieu, il a prêché à tous l'évangile de devenir juste en croyant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu en tant que Sauveur. L'apôtre Paul n'était pas un pécheur, mais un serviteur juste de Dieu, un vrai serviteur qui prêchait l'évangile aux pécheurs du monde. Un pécheur peut-il prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à d'autres personnes? Cela ne marcherait jamais. Comment peut-on prêcher aux autres ce qu'on ne peut pas faire soi-même? Quand on n'a pas été sauvé lui-même, comment peut-on sauver les autres? Si un homme se noyait et essayait d'aider l'homme à côté de lui, tous deux finiraient sous l'eau. Comment un pécheur peut-il sauver les autres? Il ne ferait que les entraîner en enfer avec eux. Comment un homme malade peut-il sauver un autre homme malade? Comment quelqu'un trompé par Satan peut-il sauver un autre? L'apôtre Paul était un pécheur, mais est devenu juste lorsqu'il a cru au baptême et au sang de Jésus et a été sauvé du péché. Il pouvait donc devenir serviteur de Dieu et prêcher l'évangile aux pécheurs du monde. Il pouvait sauver de nombreux pécheurs par la justice de Dieu. Lui-même n'était plus un pécheur. Il est né de nouveau et a vécu non pas dans la justice de la loi, mais dans la justice de Dieu. Il est devenu un serviteur et un prédicateur de la justice de Dieu qui a ramené beaucoup de gens à Dieu. Il n'était pas un prédicateur de sa propre ferveur ou de la justice de la loi, mais de la justice de Dieu. Était-il un pécheur? Non. Il était juste. En tant qu'homme juste, il est devenu l'apôtre de la vérité de Dieu. Ne l'appelez pas pécheur, car ce serait une insulte à Dieu ainsi qu'une incompréhension évidente de la vérité. Il était juste. Nous ne devrions pas l'insulter, ni Jésus, en pensant autrement. Si nous disons qu'il était toujours un pécheur après avoir rencontré Jésus, cela revient à traiter Jésus de menteur. Jésus l'avait rendu juste, et c'est Jésus qui a fait de lui un serviteur de la justice. Nos péchés peuvent-ils être lavés en priant pour la repentance? Nos péchés ne peuvent jamais être lavés par la prière et la repentance, car la rédemption ne peut jamais venir par nos propres œuvres. Au contraire, pour être lavés de nos péchés complètement et définitivement, nous devons croire au baptême et au sang de Jésus et que Jésus est Dieu. La véritable rédemption est accordée à ceux qui croient que Jésus a lavé nos péchés en étant baptisé et en saignant sur la croix pour nous donner une nouvelle vie. Alors pouvons-nous laver nos péchés quotidiens en priant pour la repentance? Non. Tous les péchés que nous commettons dans nos vies ont déjà été lavés il y a près de 2000 ans lorsque Jésus les a enlevés par son baptême. Nous avons été purifiés pour toujours de tous nos péchés par le baptême de Jésus et l'effusion de son sang sur la croix. Il est devenu l'agneau sacrificiel pour nous, les croyants, a lavé tous nos péchés par son baptême et a payé pour tous avec son sang sur la croix. Même les péchés que nous commettons après avoir cru en Jésus doivent être lavés dans la source du salut du baptême, la vérité de la rédemption. Jésus est déjà devenu notre Sauveur et il a enlevé tous les péchés que nous commettons jusqu'au jour de notre mort. Jésus est venu dans ce monde et a été baptisé ainsi, Matthieu, chapitre 3, verset 15, et il a accompli toute justice en enlevant tous nos péchés. Le Fils de Dieu a pris en charge nos péchés en étant baptisé. Le baptême de Jésus signifie « être lavé ». Parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus lorsqu'il a été baptisé, nous avons été complètement lavés de nos péchés, et cela nous a libérés de tous nos péchés. Le baptême signifie également « être immergé », « être enterré ». Parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus, il est mort pour nous, pécheurs. Et ceux qui croient que tous les péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême deviennent purs pour toujours. La vraie foi consiste à croire dans nos cœurs que tous nos péchés, même ceux que nous commettons maintenant, ont été transmis à Jésus il y a environ 2000 ans lorsqu'il a pris tous nos péchés et ainsi accompli la justice de Dieu. S'il n'avait pas lavé nos péchés il y a toutes ces années par son baptême, il n'y aurait aucun moyen pour nous de laver nos propres péchés. Rappelez-vous que tous nos péchés ont été lavés par Jésus il y a longtemps. La vraie foi et le salut spirituel d'aujourd'hui signifient présenter nos péchés devant Jésus pour s'assurer qu'ils ont été lavés, en disant « Seigneur, tu as aussi lavé ce péché, n'est-ce pas ?» et croire en lui et le remercier. C'est pourquoi il est venu, a été baptisé, est mort sur la croix et est ensuite ressuscité après 3 jours, devenant ainsi notre Sauveur. Béni est celui qui lave ses propres péchés en croyant au baptême de Jésus, qui a lavé tous nos péchés. C'est la vérité d'être lavé des péchés quotidiens. La vraie foi, c'est de croire que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par son baptême. Romains, chapitre 8, verset 30, nous dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Est-ce là le mot qui parle de la sanctification graduelle? C'est pas au sujet de la sanctification progressive. De nombreux théologiens et faux prédicateurs ont enseigné que ceux qui croient en Jésus changeront graduellement et seront complètement sanctifiés dans la chair et dans l'esprit, et beaucoup l'ont cru. Mais en fait, les gens se retrouvent de plus en plus têtus. Et le péché dans leur cœur grandit à mesure qu'ils vieillissent. Comment notre sanctification peut-elle dépendre du temps? Le mot « sanctification graduelle » est celui que Dieu déteste le plus et celui que le diable aime utiliser. Nous ne pouvons devenir justes que si nous n'avons plus rien à voir avec le péché. Parce que Jésus a lavé tous leurs péchés par son baptême et s'est sacrifié pour payer lui-même pour eux, nous devons notre justice uniquement au baptême et au sang de Jésus. Nous devenons justes en croyant que Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Le mot « sanctification » signifie « devenir saint ». Essayer de se sanctifier par soi-même, ce n'est pas croire à la vérité, mais se laisser persuader par sa propre chair faible. La sanctification progressive vient aussi de notre propre désir spirituel. Toutes les religions ont un mot pour la sanctification, mais nous qui croyons en Jésus ne devrions jamais accorder d'importance au mot lui-même. Nous ne devenons pas sanctifier progressivement en croyant en Jésus. Nous devenons juste une fois pour toutes en croyant au baptême et au sang de Jésus, l'évangile du salut spirituel. Les vrais justes naissent de la foi en l'évangile du baptême et du sang de Jésus. La confession de nos péchés peut-elle faire disparaître nos péchés? Non. Les péchés ne disparaissent pas par la confession, mais par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nos péchés ne peuvent disparaître que lorsque nous croyons au baptême et au sang de Jésus, qui nous ont purifiés de tous nos péchés. C'est l'évangile du salut spirituel de Jésus, qui a lavé tous nos péchés par son baptême au Jourdain. La confession des péchés est l'acceptation de la loi de Dieu, mais la rédemption ne nous est donnée que lorsque nous croyons au baptême et à la croix de Jésus. L'eau du baptême et le sang de Christ sont la vérité du ciel qui a sauvé tous les hommes du péché, et notre salut ne dépend pas de la confession des péchés, mais de la croyance que Jésus a pris tous les péchés de tous les êtres humains par son baptême. La crucifixion de Jésus était la punition pour les péchés qu'il a reçus de nous, pécheurs. Par conséquent, notre véritable salut réside dans le baptême au Jourdain et le sang sur la croix. La raison pour laquelle nous avons été purifiés de tous nos péchés est que nous croyons en Jésus, qui a lavé tous nos péchés. Si certains prêchent que nous pouvons être rachetés en confessant nos péchés, ils ignorent le véritable salut de Dieu. Nous devons donc croire au baptême et au sang de Jésus, au salut de Jésus. Ne dites jamais que les péchés de l'homme peuvent être rachetés en les confessant à Dieu. Sachez que nos péchés nous conduiront en enfer, mais les péchés peuvent être lavés en croyant en Jésus, son baptême et son sang, qui nous rachète et nous permet de devenir justes devant Dieu. C'est la seule façon d'être sauvés de tous nos péchés. Prenons tous conscience que nous avons été lavés de nos péchés une fois pour toutes en croyant aux paroles de vérité, à l'eau et au sang de Jésus. 1 Épître de Jean, chapitre 5, versets 4 à 8. Les péchés ne sont pas effacés à chaque fois que nous nous confessons. Si vous insistez pour vous fier à la confession, vous finirez en enfer. Croyons au véritable évangile afin que les péchés de notre cœur puissent être lavés. Croyez avec votre cœur, pas avec votre tête, et soyez libérés de vos péchés pour toujours. Quel est le véritable évangile? Le véritable évangile est celui qui nous permet d'être complètement libérés de nos péchés une fois que nous y croyons. L'évangile de Dieu est de la dynamite. L'évangile de Dieu dit que Jésus-Christ a réglé la dette d'un débiteur, pécheur, qui ne peut régler sa propre dette. La raison pour laquelle cet évangile est appelé « dynamite » est que lorsque nous avons dû mourir pour nos péchés et aller en enfer, lorsque nous avons dû être jugés, le Fils de Dieu est devenu l'offrande sacrificielle pour nous afin d'effacer tous nos péchés. Il est venu dans ce monde une fois pour toutes et a pris sur lui tous les péchés du monde par son baptême dans le Jourdain et a lavé tous nos péchés pour toujours. Il a payé le salaire de nos péchés en enlevant tous nos péchés par son baptême dans le Jourdain et en mourant sur la croix. Jésus a fait exploser tous les péchés du monde comme de la dynamite par son baptême et son sang. C'est le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est que Jésus est venu dans ce monde et qu'en étant baptisé et en versant son sang sur la croix, il a sauvé tous ceux qui croient en lui. Comme il est écrit dans 1 Épître de Jean, chapitre 5, verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Pourquoi Jésus s'est-il sacrifié sur la croix? Le sacrifice de Jésus était pour nos péchés qu'il a enlevés par son baptême. Il nous a donné sa chair pour payer pour nos péchés, afin que nous puissions être libérés de la punition pour nos péchés. Ce que nous devons savoir, c'est que Jésus a été baptisé dans le Jourdain pour enlever tous nos péchés. Nous devons croire que Jésus est mort sur la croix pour cette raison. Si Jésus n'avait pas été baptisé avant d'être crucifié, s'il n'était pas mort sur la croix, tous nos péchés seraient restés. Par conséquent, nous devons croire au baptême et au sang de Jésus. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau sacrificiel, il a été sacrifié pour effacer tous nos péchés. Nous devons tous croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde et qu'il a été crucifié pour nos péchés. Jésus a été baptisé pour enlever tous nos péchés, puis a été crucifié afin que nous, les pécheurs, puissions être sauvés de tous nos péchés et être libres de toute punition. Qui est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus? Dieu a donné aux Israélites sa loi par l'intermédiaire de Moïse, ainsi que le sacrifice de rédemption, afin qu'ils puissent obtenir l'expiation de leurs péchés et de leurs iniquités. Il a établi Aaron, le frère de Moïse, comme grand prêtre et lui a demandé d'offrir le sacrifice d'expiation le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, afin qu'une année de péché d'Israël puisse être lavée. Lévitique, chapitre 16. Il a précisé que le sacrifice du jour des expiations ne pouvait être offert que par les descendants d'Aaron. Dieu a ouvert la voie aux Israélites pour expier tous leurs péchés par l'imposition des mains, le sacrifice d'expiation offert par Aaron et ses descendants. C'est la loi d'expiation que Dieu a établie pour nous. Il a fait savoir clairement que Jésus est le Sauveur de l'humanité. À l'époque du Nouveau Testament, Jean-Baptiste était un descendant d'Aaron et le dernier grand prêtre de l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste, en tant que prophète de Dieu et représentant et grand prêtre de l'humanité, a baptisé Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sauver les pécheurs et a transféré tous les péchés de l'humanité sur sa tête. Tout le monde est béni, en effet, de pouvoir transférer ses péchés sur Jésus par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Le rôle de Jean était le grand prêtre représentant l'humanité, le serviteur de Dieu qui a transféré tous nos péchés sur Jésus. Jean-Baptiste est le représentant et le grand prêtre de l'humanité envoyé par Dieu et le messager qui a été envoyé 6 mois avant Jésus. D'autre part, Jésus était l'agneau de Dieu qui a enlevé tous les péchés du monde, tandis que Jean-Baptiste était le grand prêtre qui a transféré les péchés du monde sur Jésus par le baptême. Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu. Le Jourdain dans lequel Jésus a été baptisé. Le Jourdain coule rapidement dans la mer morte, où aucun être vivant n'existe. La surface de la mer morte est environ 400 mètres plus bas que le niveau de la mer. Par conséquent, l'eau de la mer morte ne peut s'écouler nulle part, étant enfermée dans la mer morte. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve de la mort, le Jourdain. Il représente le fait que tous les êtres humains, à l'exception de ceux qui n'ont pas de péché dans leur cœur, sont confrontés à la damnation éternelle pour leur péché à la fin. Par conséquent, le Jourdain est le fleuve qui lave les péchés, le fleuve où les pécheurs meurent. En bref, c'est le fleuve de la rédemption où tous les péchés du monde ont été lavés par son baptême, le transfert des péchés sur Jésus. Quel était le sacrifice d'expiation pour les péchés d'un jour dans l'Ancien Testament? Il y avait le sacrifice d'expiation pour les péchés d'un jour. Afin d'expier les péchés d'un jour, un homme devait amener un agneau, un mouton, un taureau ou une colombe dans le tabernacle et poser ses mains sur le sacrifice pour transférer ses péchés sur le sacrifice. C'était le sacrifice d'expiation pour les péchés d'un jour tel que prescrit dans la loi de Dieu. Lévitique, chapitre 3, versets 1 à 11. Quel était le sacrifice d'expiation pour les péchés d'une année dans l'Ancien Testament? C'était le sacrifice d'expiation pour les péchés d'une année en une seule fois. Le grand prêtre posait ses mains sur la tête d'un bouc et transférait les péchés d'une année de tout le peuple d'Israël en une seule fois. Lévitique, chapitre 16, versets 1 à 34. Les sacrifices pour tous les péchés du monde ont été accomplis par Jésus-Christ lorsqu'il est devenu l'agneau de Dieu pour prendre tous les péchés sur sa tête par son baptême. Quel a été le sacrifice pour l'expiation permanente? C'est l'expiation de tous les péchés du monde une fois pour toutes en croyant en Jésus. Et parce que Jésus est le Fils de Dieu et notre Seigneur qui vit pour toujours, il peut enlever tous les péchés du monde pour toujours. Comment a-t-il enlevé nos péchés pour toujours? Premièrement, en naissant dans la chair d'un homme. Deuxièmement, en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Troisièmement, en recevant le jugement sur la croix. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde dans la chair d'un homme et a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde par Jean-Baptiste. Il a ensuite versé son sang sur la croix pour sauver l'humanité de tous ses péchés pour toujours. Lévitique, chapitre 16, versets 6 à 22, Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, Jean, chapitre 1, versets 29, Hébreux, chapitre 9, versets 12, chapitre 10, versets 1 à 18. La rédemption est-elle donnée une fois pour toutes ou graduellement? Elle est donnée une fois pour toutes parce que Jésus a enlevé nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé une fois et a reçu le jugement une fois pour toutes. Il a dit, comme le rapporte Matthieu, chapitre 3, verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Dans Jean, chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et dans Jean, chapitre 19, verset 30, Jésus dit, « Tout est accompli. » Dans Hébreux, chapitre 10, versets 9 à 18, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Tous les péchés du monde sont rachetés une fois pour toutes par le baptême et le sang de Jésus. Quel est le salaire du péché ? Le salaire du péché, c'est la mort. Quel que soit le péché, chaque péché doit être jugé devant Dieu, et le jugement pour tous les péchés, c'est la mort. Afin d'expier tous les péchés, le peuple d'Israël devait offrir une brebis sans défaut devant Dieu. Par conséquent, Dieu a préparé l'agneau pour délivrer tous les hommes de tous leurs péchés. L'agneau a été soumis à l'imposition des mains pour enlever tous les péchés, puis il est mort à leur place. Dans le Nouveau Testament, Jésus a enlevé tous nos péchés par son baptême dans le Jourdain en tant qu'agneau et est mort pour nous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, et Jésus a exprimé son amour en mourant à notre place et en faisant don de la vie éternelle à tous les pécheurs du monde. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur la croix? La mort de Jésus était le paiement pour tous les péchés du monde qu'il a enlevés par son baptême. L'humanité risquait la mort dans les flammes brûlantes de l'enfer pour ses péchés. Mais parce que Jésus nous aimait, il a accepté le baptême, qui a transféré tous nos péchés sur lui, et il est mort sur la croix pour nous sauver. Il s'est sacrifié pour nous sauver du péché, de la malédiction de l'enfer. Sa mort a été le paiement pour les péchés de l'humanité. Il a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde et s'est livré au jugement sur la croix pour nous sauver tous du péché, de la mort, du jugement et de la damnation. Jésus est mort pour les péchés du monde, qu'il a pris sur lui au Jourdain, afin de recevoir le jugement pour les péchés de l'humanité. Il est mort sur la croix et a été ressuscité pour nous permettre de revivre en tant que justes. Que recevons-nous lorsque nous croyons en Jésus? Premièrement, nous recevons l'enlèvement de tous nos péchés et devenons justes. Romains, chapitre 8, versets 1 à 2. Deuxièmement, nous recevons son esprit et la vie éternelle. Actes, chapitre 2, verset 38, 1er épître de Jean, chapitre 5, versets 11 à 12. Troisièmement, nous recevons le droit de devenir enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Quatrièmement, nous gagnons l'entrée dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Apocalypse, chapitre 21 à 22. Cinquièmement, nous recevons toutes les bénédictions de Dieu. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 23. Pourquoi devons-nous croire en Jésus? Nous sommes tous des pécheurs qui tomberaient en enfer sans la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Seul Jésus est notre Sauveur qui peut nous sauver de l'enfer. Nous devons croire en Jésus parce que lui seul est le vrai Sauveur. Où finissent les gens qui croient en Jésus et sont rachetés de tous leurs péchés? Au ciel. Où finissent finalement ceux qui ne croient pas en Jésus et ne sont pas rachetés? En enfer pour tous leurs péchés, l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Qui sont les brebis de Dieu? Celles qui reçoivent le salut spirituel en croyant au baptême et au sang de Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Jean, chapitre 10, verset 16. Ceux qui sont des boucs parce qu'ils croient en ce qu'ils veulent sont toujours des pécheurs, mais ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus sont sauvés une fois pour toutes et sont les brebis de Dieu. Quelle est la véritable Église de Dieu? L'Église de Dieu est le lieu où les justes, ceux qui sont rachetés et sanctifiés en Christ en croyant au baptême et au sang de Jésus, se rassemblent et adorent Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2. La véritable Église de Dieu, comme le rapporte Éphésiens, chapitre 4, versets 5 à 6, est un lieu où tous les membres croient en « il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous ». Qui est un hérétique dans la Bible ? Un hérétique est quelqu'un qui a du péché dans son cœur tout en croyant en Jésus. Dans Tite, chapitre 3, verset 11, il est dit « sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même ». Jésus a pris tous nos péchés par son baptême, mais un hérétique ne croit pas à l'évangile béni, à l'eau, le baptême de Jésus, le baptême de rédemption, qui est le cadeau gracieux de Dieu, mais plutôt les hérétiques rejettent le salut et se condamnent eux-mêmes comme pécheurs. Dieu appelle hérétiques ceux qui croient en Jésus, mais se condamnent eux-mêmes comme pécheurs. Tite, chapitre 3, verset 11. Vous devez vous demander si vous-même êtes un hérétique ou non. Si vous croyez en Jésus, mais que vous vous considérez toujours comme un pécheur, alors vous ne connaissez pas la vérité spirituelle de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez en Jésus, mais que vous vous considérez toujours comme un pécheur, alors vous êtes un hérétique. C'est mépriser le salut de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et aussi prouver que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si vous faites partie de ces personnes qui confessent leurs péchés devant Dieu et admettent qu'elles sont pécheuses, alors vous devez reconsidérer sérieusement votre foi. Comment peux-tu encore être pécheur alors que tous tes péchés ont été enlevés par Jésus ? Pourquoi continues-tu à essayer de rembourser la dette alors qu'elle a déjà été prise en charge par Jésus comme un don pour toi ? Si tu insistes pour rembourser la dette toi-même, tu es un hérétique parce que tu es différent de Dieu. Quiconque croit en Jésus mais n'est pas né de nouveau est un hérétique. Tu dois connaître la vérité. Parce que Dieu a enlevé tous les péchés du monde, si tu ignores son salut, tu es un hérétique. Un hérétique est celui qui se qualifie de pécheur. Si tu te qualifies de pécheur alors que tu crois au Dieu saint, tu es un hérétique. Pour ne pas devenir hérétique, il faut croire à la fois au baptême de Jésus et à son sang sur la croix. Tu ne peux être sauvé que si tu crois aux deux ensemble en même temps, le baptême de Jésus et son sang.